Bonjour. Beaucoup de sujets de bien-être féminin sont encore tabous ou minorés. On n'évoque finalement pas, ou peu, notre fonctionnement cyclique et son impact sur notre qualité de vie, notre équilibre hormonal, le syndrome prémenstruel ou encore la périménopause. Et comme on n'en parle pas, on n'en sait pas grand-chose. Alors, nous avons décidé de partir à la rencontre de femmes de tout âge, avec des expériences très différentes, et de leur donner la parole sur leur rapport au corps et à leur cycle, ce que nous avons à cœur de nommer l'écologie corporelle féminine. Nous sommes Caroline et Anna, fondatrices de Millier. Vous écoutez un épisode de notre podcast Woman Body Ecology. Bonjour Angélique, écoute, je suis ravie de te retrouver sur ce podcast. On va parler aujourd'hui évidemment cancer du sein et toutes les implications auxquelles on ne pense pas. On avait une petite discussion autour de ça. Je vais te laisser te présenter. Tu es la créatrice de la marque Cœur de Lys, donc ça serait super que tu nous expliques un peu en quoi consiste ta marque et comment tu es venue à la créer. Quelle a été la genèse de ce beau projet?
Alors bonjour Caroline, enchantée. Donc je m'appelle Angélique de Rocchini, j'ai créé Cœur de Lys il y a maintenant 9 ans, je suis dans ma 9e année. Suite à un cancer du sein il y a 11 ans, j'ai été diagnostiquée, donc j'avais une quarantaine d'années, donc voilà, cancer du sein, ablation du sein, reconstruction, symétrisation, etc., etc., traitement, hormonothérapie. Et là, j'ai touché du doigt la lingerie post-opératoire que je ne connaissais pas du tout, hein, puisque... Bon.
Ça n'existait pas d'ailleurs presque.
Alors si ça existait, si tu veux, il existe de la lingerie adaptée aux prothèses externes depuis une centaine d'années. Hein. On a des marques étrangères qui sont spécialisées dans les prothèses mammaires externes et qui ont donc fait une lingerie adaptée à leurs prothèses.
D'accord.
Mais voilà.
Mais ça, c'était quand on était déjà opéré et qu'on avait déjà une prothèse en place, ou c'était aussi des prothèses intégrées dans le soutien-gorge?
Alors, il n'existe pas de prothèse intégrée dans le soutien-gorge. D'accord. Ce sont deux choses complètement différentes. D'accord. Tu as les prothèses d'un côté et tu as les soutiens-gorge de l'autre. Mm-hmm. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir une reconstruction immédiate, donc je ne me suis pas retrouvée sans sein. Mmh. Et je me suis retrouvée avec une grosse fragilité au niveau de la peau, au niveau des cicatrices, parce que j'ai beaucoup de cicatrices. Et du coup, j'avais pas vraiment besoin de lingerie adaptée au départ, mais j'avais besoin de douceur, j'avais besoin de matière naturelle.
Oui, tu voulais pas des corsets qui serrent ou des choses comme
oui,
ça.
Oui, je voulais pas de matière synthétique, je voulais pas de dentelle parce que tout me grattait, tout me gênait, tout frottait. C'est très désagréable quand on a des cicatrices d'avoir des élastiques sur la peau, par exemple. Voilà, les élastiques sont à la base très allergisants. C'est ce qu'il y a de plus allergisant dans la lingerie, classique. Et du coup, quand tu as une cicatrice et des élastiques qui frottent sur les cicatrices, c'est insupportable. Donc, je me suis dit, bon, je n'ai pas vraiment d'handicap particulier parce que j'ai la chance d'avoir encore mes seins. Enfin, on me l'a reconstruit. Mais je veux juste quelque chose de doux et puis d'un peu mignon, d'un peu... Donc, j'ai regardé ce que me proposaient les infirmières à l'époque. C'était absolument épouvantable.
J'allais te demander s'il y avait des conseils au niveau de l'hôpital, parce qu'on reparlera, tu avais des anecdotes très intéressantes autour parfois du manque d'accompagnement. Alors, vous étiez quand même accompagnée sur le sujet.
Alors, moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée parce que j'ai été suivie dans un centre de cancérologie spécialisé à Nice, qui s'appelle le Centre Antoine Lacassagne, qui est un grand centre qui fait partie des 10, je crois qu'il y en a 10 ou 11, non, il y en a un peu plus, il y en a une vingtaine de centres anti-cancer en France. Et donc, j'ai eu un accompagnement par des infirmières d'annonce. Et donc, ils m'ont montré la lingerie qui existait. Là, j'ai pris peur hein, parce que j'avais 40 ans à l'époque. Et je me suis dit, oulala, mais c'est pas vrai. Enfin, je ne devrais pas dire ça, mais c'est très vieillot avec des matières, ah oui. Des matières synthétiques qui brillent, beaucoup de coutures extérieures qui grattent. Enfin, moi, je me suis dit, bon, c'est juste pas possible. Je vais chercher. Moi, je voulais du coton. Je voulais du coton donc je me suis dit, bon, on en a rigolé, hein, parce qu'il vaut mieux en rigoler. Et je leur ai dit, bon, je vais chercher, je vais trouver. Et puis, ben, j'ai rien trouvé, en fait. J'ai cherché partout. Je voulais du coton doux. J'avais besoin de douceur. J'avais besoin de quelque chose un peu cocooning, voilà. Quand on vit ce genre de choses, on a besoin d'un peu de confort.
Oui, et puis c'est très important, ce qui paraît anodin, on en reparlera sur d'autres points, mais tous ces problèmes de confort, d'esthétisme, de confiance en toi, de pas se sentir enfermé dans des soins ou des galéniques, des choses un peu négatives, punitives, c'est en fait hyper important pour le moral, parce que c'est toujours cette idée qu'il faut reprendre un peu, voilà, sa vie d'avant, aller de l'avant, et en fait, ça a un impact psychologique beaucoup plus fort que ce qu'on peut croire.
Oui, parce que tu avais tout à fait raison, et on en parle de plus en plus, et c'est très bien, mais c'est vrai que quand tu vis ce genre de choses, et quand tu vis n'importe quelle maladie, hein, hélas, il faut essayer de trouver des solutions pour que ton quotidien ne te ramène pas à ta maladie tout
exactement.
Le temps. Et en fait, c'est ça, quand t'as un soutien-gorge qui te gratte, ben, toute la journée, tu repenses à ce sein qui n'est plus comme avant, à ce corps qui n'est plus comme avant, à cette maladie qui t'est tombée dessus, et ça paraît idiot, mais c'est très important. Donc l'histoire, ben voilà, je suis partie, avec mon bâton de pèlerin, et je me suis dit, je vais chercher, je vais trouver. Donc je n'ai rien trouvé, j'ai cherché un peu partout, et encore, je me disais, je suis jeune, je vais regarder sur les réseaux, je vais regarder sur Internet, et je ne trouve rien. Alors je me disais, mais toutes les personnes d'un certain âge qui n'ont pas accès à Internet ou qui sont pas très douées, je sais pas comment elles font, parce que c'est très très compliqué de trouver et de savoir où trouver. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai rien trouvé. Après, je me suis rapprochée de la Ligue contre le cancer. Je suis devenue bénévole, membre du conseil d'administration. J'ai fait beaucoup beaucoup de bénévolat. J'ai discuté avec beaucoup de femmes. Donc j'ai fait une étude de marché auprès de beaucoup de malades. Et on en est tout arrivé au même constat. Il manque plein de choses. Il manque de la douceur, de la féminité.
C'est marrant quand tu dis cette étude de marché, parce qu'on a eu un peu le même sentiment sur le côté hormonal. C'est en fait, c'est créer un marché quasiment, parce que c'est une étude des besoins, parce que finalement le marché, comme tu dis, il n'existait pas vraiment.
Il n'existait pas, ou il existait, mais je me suis posé plein de questions à l'époque. Je me suis dit, mais pourquoi la lingerie classique et les créateurs de lingerie, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, hein, parce que pour l'anecdote, j'ai eu le coup de cœur du salon de la lingerie à Paris en 2017. Et en fait, j'étais la seule marque à faire du coton sur 500 marques.
C'est fou.
Voilà.
Ouais, il y a un manque de bon sens.
Mais aucune marque qui faisait de la lingerie avec des matières naturelles.
Ouais, c'est un manque de bon sens.
Et alors, il y en a toujours pas beaucoup. Et donc, je me disais, pourquoi les marques de lingerie ne se sont pas intéressées Alors, j'ai ma petite idée. Hein, ma petite idée, c'est que, bah, en fait, la lingerie classique, c'est de la féminité, de la sensualité, de la beauté, de la joie, du bonheur, de la féminité. Et en fait, bah, voilà, ils n'ont pas du tout envie de mélanger leur image à la maladie.
C'est dommage. C'est l'inverse. Il faut redorer le blason, justement, quand on sait que ça va être.
Alors ça a un peu changé ces 10 dernières années. Il y a quelques marques de lingerie qui se sont dit, bon ben on va faire quelque chose, on va créer des modèles, on va essayer d'amener un peu de féminité là-dedans. Mais c'est pas évident, parce qu'en fait on se rend compte que les femmes, en fait ce qui est très compliqué, c'est le post-opératoire, parce que les femmes qui sortent de leur opération, elles ne vont pas avoir l'idée d'aller dans une lingerie, une boutique de lingerie classique, parce que elles sont encore très choquées, on va dire, par cette maladie, et surtout quand on leur enlève un sein ou deux seins. Du coup, elles ont du mal à aller montrer.
Oui, il y a d'abord une réappropriation du corps, mais pour moi, cette réappropriation du corps ne peut pas venir sans avoir des proposition justement un petit peu positive, féminine, plus joyeuse en fait autour de ça. L'idée, c'est de se dire, voilà, c'est une femme sur 8 aujourd'hui, peut-être une femme sur 5 bientôt. Enfin, je veux dire, on est dans des maladies qui touchent énormément de femmes, donc faut l'intégrer en disant, voilà, évidemment, essayer d'éviter au maximum, et de se dire, ça fait partie presque de parcours de vie, de beaucoup de parcours de vie, et donc, comme toutes les réflexions hein, d'ailleurs hein, qu'il y a au niveau économique et tout ça, comment on réintègre mieux ces femmes dans un parcours de vie normal en fait hein. Parce que c'est hyper important de se poser la question comme ça.
C'est très compliqué, c'est très compliqué, et du coup, et c'est là où la problématique se pose, c'est que ce qui est fou, c'est que les prothèses mammaires externes sont remboursées et pas la lingerie. Donc ça, c'est un peu aberrant aussi, puisqu'en fait, on rembourse une prothèse, mais on rembourse pas un soutien-gorge pour mettre la prothèse. Donc ça paraît un peu étonnant, mais
ça va évoluer. C'est comme les protections menstruelles. Je pense que c'est des choses qui vont évoluer, parce qu'effectivement, l'impact de la maladie, on en parle assez peu d'un point de vue financier, mais en fait, c'est énorme à plein de niveaux. Et donc, ça, c'est pas non plus normal quand ça devient quasiment une maladie, on va dire, très commune, quoi.
Oui. C'est un vrai problème. Mais bon, j'espère que ça changera et que ça évoluera. En tout cas, le monde de la lingerie post-opératoire évolue. Et donc, j'ai essayé de le faire un petit peu évoluer à mon petit niveau. Et du coup, j'ai créé cette marque et je me suis dit, voilà, moi, je veux quelque chose de très doux. Donc, je suis allée.
Et c'est vraiment en expérience de vie. Alors, si tu as des retours, les femmes l'utilisent après toute leur vie, en fait, ce type de lingerie. C'est-à-dire que, ou alors, quel est le type d'utilisation classique de cette lingerie
Si tu veux, tu peux l'aborder de deux façons, ou en post-opératoire, ou en lingerie classique, super confort. Qui est de plus en plus demandé, parce que finalement quand on a eu un cancer du sein, on a différentes problématiques, tant qu'on n'est pas reconstruite, bon, il y a quand même des femmes qui se font pas reconstruire, mais tant qu'on n'est pas reconstruite, on est obligé d'avoir un soutien-gorge où on met une prothèse dedans, et puis après, le jour où on est reconstruite, on n'a plus besoin d'un soutien-gorge spécialisé entre guillemets, mais on a besoin de confort. Et le problème de la lingerie classique, c'est que, et là on parle plus de lingerie post-opératoire, juste de la lingerie classique, c'est que les armatures, on les supporte plus, les coutures, on les supporte pas, la dentelle qui gratte, on supporte pas, les coutures mal faites, on les supporte pas. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment réfléchi à un système pour que il n'y ait pas d'élastique sur la peau.
Mmh, oui.
Et j'ai fait une lingerie en fourreau avec tout à l'intérieur, sans aucun élastique qui touche, sans aucune couture.
Je ne savais pas du tout pour ces élastiques.
Ah oui, non, c'est très, très désagréable. Ça paraît idiot, mais même les femmes qui ne sont pas touchées par cette maladie, on remarque très souvent, moi je le remarque très souvent, les femmes se tirent leur soutien-gorge d'un côté, tirent leur soutien-gorge de l'autre, sont toujours en train de le remettre, le tirer, on se rend compte qu'elles sont mal dans leur lingerie.
Oui, et puis attention, moi je sais qu'il y a des choses que j'aime pas trop, les armatures et autres, pareil. Alors après, attention aux faux débats, parce qu'il y a un gros, je sais pas si tu as vu circuler ça sur internet, je trouve ça un peu choquant, mais des fausses informations qui disaient que les armatures favorisaient les cancers du sein, ça c'est absolument
absurde.
Donc laissons ça de côté. Par contre, la recherche de plus de confort et tout paraît juste naturelle et essentielle.
C'est juste des matières
plus naturelles. Alors, tu avais des anecdotes aussi très intéressantes autour de ton expérience en fait de cancer. Tu dis que tu as des choses que tu aurais aimé savoir avant. Je pense que c'est aussi une bonne plateforme pour alerter les femmes dessus. Et si tu avais quelques messages en disant, voilà, en post-opératoire, par rapport à ce que tu as traversé, tu m'avais parlé des lymphodèmes aussi, je crois, par exemple.
Alors,
qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui traversent cette période?
J'aimerais, pour ce mois d'octobre, dire à quel point il est important de se faire dépister et dire aussi à quel point il ne faut pas avoir peur. On en parle beaucoup, là, c'est vraiment le mois du dépistage. Il y a encore une femme sur deux qui se fait pas dépister. Donc ça, c'est un vrai problème. Et pourquoi? Parce qu'elles ont peur. Elles ont peur du diagnostic, elles ont peur de la mammo. Mais il faut savoir qu'un cancer du sein diagnostiqué à temps se passe très bien. Et que quand il n'est pas diagnostiqué à temps, ça se passe, c'est beaucoup plus compliqué.
Oui, c'est 9, quand diagnostiqué à temps, on a 9 chances sur 10 de guérir à peu près, c'est ça?
Oui, c'est 90 ou... Enfin, j'étais à une soirée avec un radiologue là, qui disait, 92-95% de guérison quand c'est diagnostiqué à temps. Donc on devrait dire chouette, je vais faire ma mammo, j'ai de la chance, je peux me faire dépister, il faut pas que j'ai peur, parce que même s'il y a un tout petit truc, c'est très bien géré, et finalement maintenant ça se passe très très bien. Donc il n'y a pas de traitement lourd, il y a opération, peut-être un peu de radiothérapie et puis un peu d'hormonaux, et puis ça se finit très bien et on reprend le cours d'une vie tout à fait normale et on.
Toi, tu as eu un cancer très jeune en fait, donc tu l'as su par dépistage chez le gynécologue, pas mammographie j'imagine à l'origine.
Eh ben alors moi je l'ai eu à 40 ans, oui,
Oui, très jeune.
alors maintenant il y a hélas des femmes beaucoup plus jeunes que moi, hein, qui ont 28, 30 ans et qui ont ça, donc c'est vraiment, c'est terrible, hein, quand on est si jeune, des femmes enceintes, c'est ça c'est... Mais c'est vrai que moi à l'époque, quand j'allais au centre Antoine à Cassagne, j'étais une des plus jeunes, je me disais « oh là là ». Je suis super jeune, la majorité des personnes, c'était plus 65, 70 ans, 60, entre 60 et 70, et je me disais, mais, oh là là, moi j'ai 40 ans. Moi, bon, ça s'est très bien passé, hein. Maintenant ça fait 12 ans, donc tout va bien, je faisais mes mammos régulièrement. Mais c'est vraiment en faisant de l'autopalpation que je l'ai découvert. J'avais une petite boule et là, dès qu'on sent la moindre chose, il faut tout de suite réagir, surtout pas faire la politique de l'autruche.
Oui, voilà, parce que j'allais dire avant de la mammographie, apprenez déjà à bien connaître les contours de votre corps, remontez bien sous le goupillon, le dessous du bras, parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le réflexe mammo avant 50 ans. Quand on voit les dernières stats sur l'augmentation des cancers des moins de 50 ans, qui est assez ultra alarmante, c'est très très important de déjà commencer par nous-mêmes nous toucher régulièrement à ce niveau-là et bien connaître le contour.
Regardez, alors comme disait le médecin que j'ai vu vendredi soir, s'allonger tranquillement, donc en position allongée, et bien palper sous le bras, sur tout le sein, avec trois doigts, bien. Et ça, déjà, bon, on le fait, faut le faire régulièrement, faut pas que ça devienne une psychose, mais le faire régulièrement, et surtout, dès qu'il y a la moindre anomalie, tout de suite aller voir quelqu'un, et puis voilà, si jamais, ça peut ne pas être ça, hein, bien évidemment, hein, parce que le sein est plein de ganglions, donc, c'est pas forcément un cancer du sein, heureusement.
Bien sûr.
Mais au moins, dès qu'on a le moindre doute.
On élimine le risque.
Voilà. Donc, la prévention, super important. Ça sauve des vies tous les jours. Voilà. Ça, c'est vraiment. Et puis, par rapport à mon expérience post-opératoire. Alors, oui, moi, j'ai eu une expérience post-opératoire un peu compliquée parce que quand on refait un sein après une mastectomie. On te demande de porter des brassières de contention. Et là, il y a un gros, gros manque d'informations par rapport pas aux médecins, mais au corps médical. Très souvent, on te laisse perdu dans la nature avec une brassière de contention. Très souvent, on dit aux personnes d'aller dans des magasins de sport pour acheter de la contention. Et là, c'est une catastrophe parce qu'en fait, quand on vient de reconstruire un sein, c'est très fragile, c'est très douloureux. Et du coup, on se retrouve avec des brassières qui sont pas du tout adaptées, qui font mal. Moi, j'ai plein de témoignages de femmes qui me disent on a souffert le martyr à cause de cette brassière de contention. Et j'en ai fait les frais et ça a été très douloureux et c'est pour ça que j'ai créé, moi après, deux ans après avoir créé Cœur de Lys, j'ai créé une brassière de contention entièrement doublée de coton à l'intérieur, qui est très douce, très confort, on peut dormir avec. Voilà,
Je pense que tu touches à un point crucial, c'est que très souvent, malheureusement, dans des mécaniques un petit peu de survie corrective, quand on est tombé dans la pathologie, on va avoir une médecine excellente sur le côté éliminer ce risque, éliminer la récidive. En revanche, nous, on a eu beaucoup de témoignages de femmes aussi auxquelles on ne prévient pas forcément autour des effets secondaires, hein, pas que les cancers du sein, ça peut être aussi des hystéroptomies, enfin plein de choses, sur les effets témoignages et les inconforts que ça peut engendrer, ou des risques quand ils ne sont que esthétiques ou que confort, qui sont souvent un petit peu laissés de côté. Et je pense que c'est vraiment une grave erreur, parce que quand on parle de tout ce processus de réappropriation du corps, de s'en sortir, surtout on sait qu'il y a quand même beaucoup de liens avec le mental et l'énergie, c'est très important en fait. Donc toi, tu parlais de la brassière, je pense que voilà, si en plus tu souffres alors qu'on t'a amputé d'une partie de ton corps, c'est terrible. Voilà, est-ce que tu penses à d'autres choses que tu aurais aimé connaître avant ou être plus informée, qui auraient pu t'aider dans ce process aussi?
Écoute, moi, je dis toujours que, hélas, quand tu traverses ce genre de maladie, tu as toujours des gens qui te disent des choses horribles. Et je pense que moi, je suis tout le contraire. On va parler de l'hormonothérapie, par exemple. Moi, j'ai eu très peur de prendre mon hormonothérapie parce qu'on m'avait dit « Oh là là, tu vas voir, c'est horrible !» Et j'ai pris 7 ans d'hormonothérapie et je n'ai pas eu un effet secondaire. Donc, j'ai peut-être eu de la chance. Mais c'est aussi important de le dire puisque l'hormonothérapie, elle est quasi systématique, hein, je crois. Mm-hmm. Donc, voilà, 7 ans d'hormono, j'avais 40 ans, je n'étais pas ménopausée. Donc, c'est vraiment le type d'âge où il peut se passer plein de choses dans son corps. Puisque moi, j'ai eu une ménopause forcée avec cette hormonothérapie. Et j'ai eu zéro bouffée de chaleur, zéro effet secondaire, rien. Et j'ai même dit à mon médecin, non, mais on l'arrête pas. Je continue, moi. Ça ne dérange pas, moi. Et il m'a dit, non, on arrête, 7 ans, ça suffit. Mais voilà, certains traitements peuvent amener des effets secondaires, bien évidemment. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il peut ne pas y en avoir. Voilà. Et ça, ce n'est pas du tout systématique. Et j'ai entendu plein de gens qui me disaient « Ah non, mais je ne veux pas prendre mon hormono. » J'ai entendu tellement de… Mais si, il faut la prendre. Il faut. Parce que vous n'aurez pas forcément et peut-être vous n'aurez rien du tout. Donc, ça, c'est très important parce que les gens… Comme la mammographie, j'ai encore entendu « Non, mais la mammographie, ça fait mal. » Mais maintenant, les mammographies ne sont plus du tout les mêmes qu'avant, déjà. Et puis, il faut savoir que les personnes qui font les mammos sont des personnes qui sont formées, qui sont très à l'écoute, ce sont des gens géniaux, qui font très attention. C'est fini tout ça, la mammo qui fait un mal de chien, non, c'est pas vrai. On va pas dire que c'est une partie de plaisir, mais c'est pas douloureux du tout, faut pas avoir peur de ça.
Bien sûr. Non, mais ça, c'est très important, tu as raison.
C'est très important de le dire, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur, il ne faut pas avoir peur de ça, c'est rien, c'est une formalité.
Et voilà. Puis après, il faut être bien entouré, moi, je pense, pour dès le départ, connaître un peu les après. Tu parlais, il peut y avoir aussi beaucoup, nous, on a vu de problèmes de sécheresse à tout niveau, oculaire, peau, sécheresse intime, suite à des hormonothérapies. La perte des cheveux, enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de choses et je pense que c'est très important d'être prévenu en amont pour bien réagir aussi, voilà, avoir les bonnes choses en accompagnement. Tu parlais aussi d'un problème de gonflement qui peut arriver, je trouvais ça très intéressant.
Oui, les lymphodèmes. Oui, le lymphodème, c'est un vrai problème et moi j'ai vu beaucoup de gens pas du tout informés et là c'est grave, je trouve, parce que un lymphodème pris à temps, c'est pareil, peut être géré, et un lymphodème qui n'est pas pris à temps, c'est beaucoup.
Ne se traite plus après, quoi.
Parce que ce sont des problèmes à vie, après, donc de gonflement pour les cancers du sein, du bras, et pour les autres, ça peut être les jambes. Et donc ça, on n'en parle pas. Moi, on m'en a pas du tout parlé. J'ai eu la chance de ne pas avoir de lymphodème, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont eu ce type de problème. Et ça, dès qu'il y a le moindre... Alors déjà, il faut faire très attention de ne pas porter de choses lourdes après les opérations. Il faut faire très attention de ne pas se piquer, de ne pas avoir d'infection sur le bras, côté du sein opéré. Et ça, pendant longtemps, il faut se dire qu'on reste fragile à ce niveau-là, qu'il ne faut surtout pas laisser passer un petit gonflement au niveau de la main ou au niveau du bras, parce que ça peut continuer et jamais redevenir comme avant. Donc le lymphodème, C'est très embêtant qu'on n'en parle pas, puisque moi, l'amie que j'ai, elle a cru qu'elle s'était fait piquer par un moustique, et puis elle a attendu, et puis voilà, une fois
qu'on... Voilà, non, je pense que ça, c'est vraiment une partie sur laquelle on peut sensibiliser, c'est prévoyez tous les cas de figure pour pouvoir réagir au cas où il y a suffisamment d'impact émotionnel et physique pour s'épargner des complications.
Oui, faire attention, voilà, moi, quand on fait une prise de sang, je fais jamais la prise de sang du côté du sein opéré, je fais toujours, je porte, hein, bien sûr, maintenant ça fait 11 ans, donc j'ai une vie tout à fait normale, mais quand même, je me dis, bon, si je me coupe, je fais attention, si, parce qu'un lymphœdème peut arriver des années plus tard. Donc, c'est ça aussi qui est important de savoir, c'est que c'est pas juste après l'opération. Il y a des lymphœdèmes qui arrivent 10-20 ans après. Donc, sans toujours en faire une psychose, pas du tout, mais être vigilant et faire, si on a le moindre signe de gonflement du bras ou de la main, tout de suite se rapprocher du corps médical pour savoir ce qu'il faut faire.
Bah en tout cas, écoute, aussi bravo pour ta résilience et ce beau projet qui a découlé peut-être en partie à cause de cette terrible maladie, mais en tout cas, je trouve que c'est un super projet pour les femmes. Est-ce que tu peux nous dire aussi où on peut retrouver ta marque et tes produits?
Oui, alors en fait, j'ai un site internet coeurdelys.com, donc où on peut acheter en ligne. Et après, sur le site, on a tous nos revendeurs. Nous, on a à peu près 300 et quelques revendeurs en France qui sont marqués sur le site par région.
Super. Bah écoute, bravo. En tout cas, vraiment bravo pour ce beau projet. Et ton engagement auprès de ça, j'espère que ça aidera voilà, des femmes qui peuvent traverser cette épreuve. Et je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, une petite phrase pour les femmes qui traversent cette période.
Leur dire que tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Qu'on a la chance d'être très très bien soignés en France. On a une médecine extraordinaire, que les traitements avancent de façon spectaculaire il y a des moments difficiles, mais après tout va redevenir rose. Voilà.
Voilà. À partir du moment où on se fait bien dépister à temps, bien surveiller, et qu'on apprend aussi à se sentir en contrôle de son corps et à bien penser aussi à l'autopalpation et tous ces gestes qui peuvent vraiment sauver des vies.
Très important. Oui, tout à fait raison.
Merci beaucoup Angélique en tout cas pour ce beau message et encore bravo pour ton projet.
Merci beaucoup. Merci.